encore une voie dans le royaume, mais une voie particulière, c'est la voie de Jésus sur la croix. Jésus sur la croix a dit sept paroles. Peut-être qu'il en a dit plus, mais en tout cas, dans les évangiles, il y en a sept qui sont relevées. Et c'est impressionnant de voir la profondeur, le fait que ça soit vraiment à propos par rapport à ces paroles, la grâce qui sort de la bouche de Jésus alors qu'il est dans ce temps de supplice. La croix, c'était la façon la plus horrible de condamner quelqu'un à mort. Et Jésus, dans ces moments-là, n'a pas été pris par la rancœur, par l'amertume, par toutes sortes de choses mauvaises, mais c'est des paroles de grâce, de pardon, d'amour, des paroles aussi de douleur parfois, d'humanité, paroles de puissance et de foi que l'on retrouve dans la bouche de Jésus. Et ce qui est particulier, c'est que oui, c'est un Jésus qui est en train de mourir sur la croix, qui dit ces paroles, mais ce Jésus est ressuscité comme on l'a assez dit jusqu'à présent. Et les paroles qu'il a prononcées, elles ont encore aujourd'hui une puissance. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Elle a une action encore aujourd'hui dans les cœurs, si on met notre foi dans cette parole. Alors, je voudrais qu'on lise rapidement dans Luc au chapitre 23. On va être obligé de lire plusieurs évangiles, puisque toutes les paroles ne sont pas dans un seul évangile, mais sont dans les quatre évangiles. Les sept paroles. Donc les premières commencent dans Luc au chapitre 23. On va bien situer le contexte avec le verset 26 en lisant à partir du verset 26. Comme ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs. Et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la portât derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de peuples et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi, qui subis la même condamnation? Pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » Mais celui-ci n'a rien fait de mal, et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Nous allons dans Jean, chapitre 19 et au verset 25, troisième parole de Jésus. Il est dit ceci, Jean 19, 25, « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Matthieu 27, verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, c'est-à-dire 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jean 19, on revient à Jean 19, verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et on retourne dans Luc au chapitre 23 et au verset 45. « Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. » Jésus s'écria d'une voix forte « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit « Certainement, cet homme était juste. » Amen. Une longue lecture, mais qui est nécessaire pour qu'on puisse bien se remettre en mémoire, parce que c'est souvent des paroles qu'on connaît par cœur, mais peut-être que le Saint-Esprit, ce matin, va prendre le temps pour appliquer ces paroles à notre cœur. Première de ces paroles, une parole de pardon. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. À qui est adressée cette parole ? À son Père. À celui qui a été, dès le commencement de sa vie, a été là, bienveillant envers lui, et à celui qui avait planifié toutes choses pour que ce Jésus qui vienne sur la croix, le Fils de Dieu, qui vienne sur la terre, puisse aller jusqu'à la croix pour les pécheurs. Jésus ne laisse pas la douleur, la difficulté, l'empêcher de prier. Parfois, on peut être nous-mêmes empêchés de prier parce qu'on se dit « je souffre trop, c'est trop difficile, je peux pas prier ». Mais vous savez que la Bible nous dit que Dieu, il entend même la prière de nos larmes. Même quand de nos bouches, il ne sort plus de son tellement la douleur est forte, Dieu entend la prière de nos larmes, la tristesse de notre cœur. Dieu voit au fond de nous. Et de la même manière que le Père a entendu cette prière et l'exauce et continue de l'exaucer, de la même manière, quand nous faisons cette prière dans la douleur, le Seigneur est capable de nous répondre. C'est adressé au Père, mais pour qui est-ce que le Seigneur prie ? Il prie pour ses bourreaux qui sont là devant lui. Il prie pour les magistrats. Il prie pour les hommes religieux de son époque qui l'ont accusé à tort. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Qu'est-ce que vous auriez fait, tiens, si on vous avait accusé faussement à tort, un faux procès avec des faux témoins qui étaient là, qui vous accusaient de toutes sortes de choses, alors que pendant toute votre vie, vous avez fait que de l'injustice. Puis, quand vous êtes maltraité, quand vous êtes donné des coups, quand vous êtes planté une couronne sur la tête, quand vous êtes lacéré le dos avec un fouet, qu'est-ce que vous auriez dit ? Quelle aurait été votre première parole ? Humainement, il vaut mieux pas savoir. Parce qu'il y aurait eu toutes sortes de mauvaises choses, de mauvaises pensées, peut-être de la rancœur. Mais regardez l'exemple de Jésus sur la croix. Après tout ce qui lui est arrivé, tellement il était fatigué sur le chemin du calvaire qu'on a dû donner la croix à quelqu'un d'autre pour qu'il la porte. Parce qu'il n'était pas capable de la porter. Et pourtant, la première parole qui sort de sa bouche, c'est une parole de pardon. Père, pardonne-leur. Pardonne-leur à ces magistrats. Pardonne-leur aussi à ses disciples qui sont là. Certains se tiennent dans l'éloignement, d'autres l'ont renié, d'autres l'ont trahi, d'autres l'ont carrément abandonné. Pardonne-leur. Vous savez comment Jésus a parlé à Pierre avant même qu'il le renie ? J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Et si le Seigneur il intercède pour ceux qui sont coupables, les chefs religieux et tout ça, tous ceux qui sont pécheurs, il intercède pour qu'ils se tournent vers lui. Pour les disciples, il intercède d'une autre manière. Il prie pour qu'ils puissent être affermis, qu'ils puissent revenir totalement, qu'ils puissent revenir d'un cœur brûlant avec le Seigneur. Ça peut arriver parfois que des épreuves, des choses qu'on pensait arriver n'arrivent pas. Et du coup, on semble totalement désespéré. Les disciples pensaient que Jésus allait régner tout de suite. Et du coup, quand ils voient mourir, ils comprennent plus rien. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Et donc, toutes sortes de décisions pas à propos sont arrivées à ce moment-là. Mais Jésus a prié pour que leur foi ne défaille point. Et le Seigneur veut prier de la même manière pour tous ceux qui sont ses enfants. Ce matin, il prie, même si on s'est arrêté au bord du chemin, il prie pour que notre foi ne défaille point. Parce que ce qui est le plus important sur cette terre, c'est pas le montant de notre compte en banque, c'est pas les voitures qui sont garées dans notre garage, c'est pas la hauteur de la maison que l'on a. Ce qui est le plus important, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ et de savoir où c'est que l'on va par la suite. C'est ça le plus important. Et le Seigneur le sait, c'est pour ça qu'il dit « Je prie que ta foi ne défaille pas, Pierre. » Et même quand il les voit tous qui sont absents de ce moment de la croix, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Oui, même quand on est au Seigneur, on peut arriver d'avoir des failles. Mais toujours auprès du Seigneur, on va obtenir le pardon. Et aujourd'hui encore, le Seigneur nous dit cette prière pour nous. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce que vous pensez que vous faites toujours ce qu'il faut? Ou est-ce que ça vous arrive d'avoir des torts? Ça vous arrive de faire des mauvaises choses? Ça nous arrive à tous, et tant qu'on sera sur la terre, malheureusement, on aura toujours des failles. Il n'y a que en restant près du Seigneur qu'on peut faire toujours ce qui est juste. Mais le Seigneur est celui qui veut nous pardonner. Il ne se lasse pas de nous pardonner, nous dit la parole. Autant ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Autant l'Est est éloigné de l'Ouest, autant il veut enlever de nous nos transgressions. Parce qu'il est un Dieu qui pardonne. Père, pardonne-leur. Ce qui est remarquable quand on connaît un peu le grec, je connais pas trop, mais je lis un peu de commentaires, c'est qu'ils disent que le temps qui est employé pour dire pardonne-leur, c'est pas juste un temps présent, mais c'est un temps continuel. Ça veut dire sois toujours en train de leur pardonner. Ça veut dire c'était vrai pour les disciples à l'époque, mais c'est vrai pour nous aujourd'hui. Le Seigneur veut nous pardonner. Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus crucifié nous dit Père, pardonne-leur, mais Jésus ressuscité nous dit mes enfants, pardonnez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qu'il a dit dans notre Père? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Et si nous voulons avoir la preuve que Jésus est ressuscité, c'est que nous voyons une œuvre de pardon qui se fait. Et je bénis le Seigneur pour tous les témoignages. Je pourrais passer la fin de la matinée à vous raconter tous les témoignages que j'ai vus d'histoires de pardon, de réconciliation. Et dans cette pièce, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont vécu de telles choses, mais ça, c'est une marque de la présence d'un Dieu, de la marque de la présence d'un Jésus qui est ressuscité et qui agit dans le cœur de ses enfants. Souvent, on juge rapidement en disant, oui, à l'époque, les Juifs, ils ont condamné Jésus, les sacrificateurs, ils sont pas bien ces gens, ils sont méchants. Souvent, on juge en disant, nous, on aurait fait mieux qu'eux. Moi, j'aime bien ce chant qui avait été pris à Noël, qui nous parle des « Il a donné ses deux mains ». Et il nous parle de tous ceux qui avaient leurs mains à cette époque. Les mains de Pierre se réchauffaient auprès d'un feu, mais il était en train de renier le Jésus. Les mains de Judas, il avait saisi, embrassé, et pourtant c'était pour le trahir. Les mains de Pilate, elles étaient lavées, mais c'était pour se déculpabiliser. C'était pas sa faute, c'était la faute des autres. Mais il y a cette question. Toi, tes mains, qu'est-ce que tu en aurais fait? Et il y a une autre question qu'il faudrait rajouter, c'est que fais-tu de tes mains aujourd'hui pour le Seigneur? Jésus a les mains percées. À cause de ton péché, qu'est-ce que toi tu fais de tes mains? Comment est-ce que tu montres ton amour pour ton Dieu? De quelle manière tu déploies ton zèle pour lui dire ta reconnaissance? Une parole de pardon aujourd'hui. Je me permets de raconter cette histoire. Un jeune homme, dans une église, il s'est approché de Dieu et vraiment il est touché par le Seigneur, il veut faire une démarche de pardon. Il y a eu des soucis dans sa famille et vraiment il a à cœur de se réconcilier avec son père. Le problème c'est qu'il a envoyé un courrier et le courrier lui revient avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ». Ça vous est déjà arrivé de recevoir des lettres comme ça? Parce que l'adresse n'était pas la bonne, le père avait déménagé. Alors, aucun moyen de contacter son père. Pourtant, il a vraiment envie de demander pardon. La situation reste plus ou moins là. D'un autre côté, il y a un monsieur avec son épouse qui prie pour que Dieu agisse dans leur famille. Qui prie pour que vraiment il y ait la réconciliation parce qu'il y a eu des histoires dans le passé. Il y a eu des choses qui sont là et qui pèsent sur la famille. Et vraiment, ils ont cette prière. Seigneur, on veut voir ta gloire dans notre famille. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune nouvelle de leur fils. Comment faire? Eh bien, en priant, justement, le Seigneur, il s'occupe de tout. Et un jour, je reçois dans ma boîte mail un message d'un pasteur qui me dit, voilà, j'ai un jeune homme qui recherche son père, est-ce que tu le connaîtrais? Et puis, quand il me donne le nom, j'ai dit, oui, je le connais. Oui, oui. Ce jeune homme, il veut se réconcilier avec son père. Et par la grâce de Dieu, on a pu les mettre en relation l'un avec l'autre. Et ils ont pu demander pardon mutuellement. Je ne sais pas s'ils ont pu se rencontrer encore, parce que je n'ai pas eu toute la fin de l'histoire. Mais ce que je sais, c'est qu'on a un Dieu qui est vivant. Et même si on perd, nous, les coordonnées, même si c'est difficile, mais qu'on prie, qu'on dit, Seigneur, je me confie en toi. Je veux qu'il y ait le pardon qui règne dans ma famille, parce que tu as un Dieu qui nous donne des paroles de pardon. Ben, le Seigneur est capable de le faire. Et il l'a fait pour tellement, il l'a fait pour ces personnes. Je veux pas donner leur nom pour pas les embêter, mais il l'a fait pour tellement et tellement de personnes. Et je vous encourage, je vous invite vraiment, s'il y a un problème de pardon dans votre famille, à prendre cette parole à cœur. Seigneur, toi, tu as demandé pardon. Tu as demandé que le pardon de Dieu soit sur ces personnes. Moi aussi, je veux être rempli de cet esprit de pardon. Et cet esprit de grâce aussi. La deuxième parole de Jésus, c'est une parole de grâce. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole qui est adressée à un brigand. Quand on regarde le CV de ce brigand, quand on regarde le casier judiciaire de ce brigand, alors c'est impressionnant. S'il était là en train d'être crucifié, c'est qu'il avait fait des choses terribles. Au moins des meurtres, au moins de la révolte contre l'Empire romain, toutes sortes de rébellions qui étaient là dans son cœur, le cœur de cet homme. L'évangile de Marc nous précise qu'à un moment donné, il n'y en avait pas qu'un qui se moquait de Jésus, mais les deux malfaiteurs à côté de Jésus, à droite et à gauche, se moquaient de lui. Mais, à un moment donné, cet homme se rend compte, en entendant peut-être cette parole de pardon, pardonne-leur Seigneur. Il se dit, mais attends, moi je mérite d'être là, mais lui, qu'est-ce qu'il fait là? Et il a compris que c'était pour lui. Et alors que l'autre malfaiteur est en train de continuer de se moquer, il dit, mais non, mais nous, pour nous c'est justice. Nous, on est là parce que c'est les crimes que l'on a fait qui font qu'on est là. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il fait ce qu'il faut faire, il faut le faire le plus tôt possible, mais peut-être même si ça arrive à l'extrémité de notre vie, si nous faisons cela, le Seigneur est capable de nous sauver, il se tourne vers Jésus. La Bible nous dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et cet homme se tourne vers le Seigneur Jésus en disant, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans son règne. Jésus lui dit quoi? Ouh là là, mais tu as vu ton CV? Ouh là 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 là, ça va prendre du temps, hein? Est-ce que c'est ça qu'il lui dit le Seigneur? Tu as fait trop de mal, tu as peut-être tué un homme. Alors non, c'est pas possible. Non, il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Il lui donne une promesse, il lui donne une parole qui lui permet d'avoir une certitude. Et Dieu veut nous donner encore aujourd'hui de telles paroles. Si quelqu'un ce matin ne sait pas s'il est sauvé, mais Jésus veut lui donner ce matin cette parole. Il veut lui donner l'assurance. On rencontre parfois des gens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils sont pas sûrs s'ils sont sauvés, s'ils vont au ciel ou pas, et qui disent que, oh, mais si, vous avez trop d'arrogance en vous disant que vous êtes sauvés. Mais non, mais si c'est le Seigneur Jésus qui nous le dit, il a dit à cet homme, c'est un exemple. Pourtant cet homme, il n'a jamais mis les pieds à l'église, il n'a jamais été baptisé, il n'a jamais parlé en langue, il n'a jamais fait quoi que ce soit pour le Seigneur. Mais par la foi, dans la personne de Jésus et dans son sacrifice, il est sauvé et il a sa place dans le ciel. Un jour, nous pourrons aller prendre le café chez cet homme dans le ciel. Enfin, je sais pas si on prendra le café. Ça, c'est moi qui m'avance. Mais on pourra aller lui parler en tout cas dans le ciel et voir avec lui vraiment cette expérience qu'il a pu vivre parce qu'on a un Seigneur qui fait grâce. Peu importe d'où nous sortons, peu importe notre passé, cet homme, il avait un lourd passé, mais parce qu'il a la foi en Jésus, tout son passé est balayé en un instant, et c'est la grâce de Dieu qui coule dans sa vie, et c'est l'assurance d'aller au paradis. Et Jésus veut nous donner ce matin encore une parole de grâce à quelqu'un qui n'a pas la certitude d'être sauvé. Ce matin, dites Seigneur, souviens-toi de moi, ne m'oublie pas Seigneur, ne m'oublie pas, je veux être sauvé, je veux croire en ton sacrifice. Troisième parole, j'avance vite parce que sinon on n'arrivera pas jusqu'au bout. Une parole d'amour, alors que Jésus se tourne vers sa maman et lui dit « Femme, voilà ton fils ». Puis il dit au disciple, c'est le disciple bien-aimé, « Jean, voilà ta mère ». Malgré la douleur, malgré les souffrances qui sont là, l'agonie en train de mourir, le sang qui coule petit à petit, le Seigneur est malgré tout ça, il est en train de s'occuper de ceux qui sont présents, et de prendre soin d'eux. Et notre Dieu est un Dieu qui aime prendre soin de ses enfants, qui aime prendre soin de ceux qu'il aime. Et alors que il voit sa maman qui est là, qui sûrement qui a les pleurs dans les yeux, et il est en train de s'occuper d'elle, de penser à son avenir, de penser aux soins qu'on va pouvoir lui apporter, en la confiant à son disciple bien-aimé, celui qui était le plus proche du Seigneur, celui qui avait une relation particulière d'intimité avec Jésus, celui qui a été présent à toutes les fois où Jésus en a choisi un cercle restreint. Jean, il y était présent. La résurrection de la fille de Jairus, la transfiguration, tant et tant d'expériences. Jean, il y était. Et c'est à lui qui va lui offrir la charge de s'occuper de sa maman. Mais j'aime cette image qui est là, d'un Jésus sur la croix qui a des paroles d'amour. Mais pas des paroles d'amour envers les gens seulement, mais des paroles d'amour pour que les gens puissent aussi prendre soin les uns des autres. Vous comprenez ? Jésus sur la croix est en train de nous donner l'image de l'Église. Jésus sur la croix est en train de nous dire, regarde à côté de toi, voici ton frère, voici ta sœur. Est-ce que parce qu'on chante les mêmes chants, alors on se sent unis, il y a une unité particulière qui se crée entre nous? Est-ce que c'est parce qu'on est assis à côté qu'on a une unité particulière qui se crée? Est-ce que c'est parce qu'on fait des choses semblables que l'unité se crée? Ben non. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand on va au magasin, on trouve souvent des gens qui ont le caddie comme nous. On trouve souvent des gens qui prennent la même marque de lessive que nous. On trouve souvent des gens qui sont à la même caisse que nous. Est-ce que pour autant on est unis, on peut les appeler frères et sœurs? Ben non, parce que c'est des choses un peu communes. Vous êtes d'accord? C'est pas ça qui fait qu'on ait une relation particulière qui nous unit. Mais là, c'est différent. Parce que c'est quand on a la foi en Jésus, le sang précieux qui a coulé pour nous sauver, c'est ça qui nous unit. Et c'est quand on croit dans le sacrifice de Jésus qu'on est unis. C'est pas quand on vient dans la même église ou quand on chante les mêmes cantiques que l'on est unis. Mais c'est quand on a la même foi dans la même personne du Seigneur Jésus. Jésus nous dit, regarde à côté de toi sur ta chaise. Regardez, vous pouvez regarder votre frère, votre sœur qui est à côté de vous et lui dire, le Seigneur vous dit, voici ton frère, voici ta sœur. Sous-entendu, prends-en soin. Sous-entendu, occupe-toi de lui, prie pour lui, encourage-la, fais-lui grâce, comme moi je t'ai fait grâce. Jésus ressuscité veut prendre soin de chacun de nous et il veut que nous prenions soin les uns des autres. Et des fois, la façon dont on peut prendre soin des autres est particulière. Le Seigneur, il utilise toutes sortes de moyens. Un jour, un proviseur, un homme très cultivé, vient à un culte et le pasteur, il connaissait le proviseur, il l'a reconnu et il se dit « Oh là 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 là, pourvu qu'il n'y ait pas de parler en langue !» Parce que c'était un gars, vraiment, il avait un cerveau à 5 étages. Et il se dit « Qu'est-ce qu'il va penser s'il entend parler en langue ?»« Pourvu qu'il n'y ait pas de parler en langue !» C'était la prière de foi du pasteur. Hein. Ça arrive des fois, des prières comme ça. Et devinez quoi ? Devinez quoi ? Il y a eu un parler en langue. Un parler en langue, un particulier fort, tout ce qu'il faut dans les parler en langue. Et puis, il y a eu l'interprétation, heureusement, en français. Et puis, à la fin du culte, le pasteur, il est un peu tremblant, mais il voit l'homme s'approcher. Alors, il se dit, qu'est-ce qu'il va encore me dire? Ça y est, il va me reprocher ce qu'il a entendu. Il va nous prendre pour des fous. Et puis, le monsieur s'approche et lui dit, monsieur le pasteur, j'ai une question à vous poser. Ouh là 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 là. Monsieur le pasteur, est-ce que vous pouvez me présenter le professeur de grec et son interprète? Et il lui dit, le quoi? Le professeur de grec, c'est le monsieur qui a parlé en grec ancien tout à l'heure. Et puis son interprète aussi, parce que il a traduit d'une façon, j'aurais pas fait mieux. Est-ce que vous pouvez me le présenter? Alors il dit, il doit s'agir de tel chrétien, mais par contre, professeur de grec, je crois qu'il a juste le CAP, je suis même pas sûr qu'il est. Oui, c'est pas grave, il va le chercher le monsieur, et il va le chercher la dame qui avait interprété. Et là, il entend cette réalité que ces personnes, ce monsieur ne connaissait rien au grec et cette femme ne connaissait rien du tout au grec. Mais par le Saint-Esprit, ce monsieur s'est expliqué en grec en disant des merveilles au Seigneur, en disant des prophéties particulières. Et la dame, elle a parfaitement interprété, traduit ce qui était en train d'être dit. Et cet homme a demandé ensuite à parler au pasteur. Et là, dans le bureau du pasteur, il s'est converti. Il a donné sa vie au Seigneur parce qu'il a compris qu'il y avait un Dieu qui régnait au-dessus de tout, un Dieu qui est capable de parler même au travers de chacun d'entre nous si on laisse son esprit se manifester dans notre vie. Gloire au Seigneur. Voilà ce que le Seigneur veut faire. Il veut que nous soyons attentifs à ses paroles d'amour. Parfois aussi, Il peut y arriver dans nos cœurs, dans nos vies, des paroles de douleur, comme ça a été le cas pour le Seigneur, alors que dans cette quatrième parole, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est toujours une parole qui est adressée à son Père, mais on se rend compte là qu'il y a quelque chose qui est brisé. Avant, c'était Père. Et à chaque fois que Jésus parle à Dieu dans les évangiles, on voit que c'est Père. Mais là, c'est la seule fois où Jésus dit « mon Dieu ». Il y a de la distance qui s'est faite. Il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais il s'est passé que pendant un instant, Jésus s'est chargé de toutes nos souffrances, de tous nos péchés, de toutes les choses qui souillent notre cœur. Et Dieu, qui ne supporte pas le péché, a dû détourner son regard de Jésus. Voilà pourquoi il sent plus la présence du Saint-Esprit en lui, parce que le Saint-Esprit, pendant quelque temps, s'est retiré de lui, parce qu'il porte le poids de notre péché. Jésus est en train de dire une parole prophétique, il est en train de reprendre le psaume 22, mais vous comprenez bien qu'au moment de ses douleurs, au moment de ses difficultés, il n'est pas là en train de dire « Allez, il faut que je dise ce qu'il faut que je dise ». Mais il dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent au fond de son cœur, et il est en train d'accomplir parfaitement ce que David a pu écrire des milliers d'années auparavant dans le psaume 22. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les ténèbres du ciel sont épaisses à ce moment-là, nous dit la parole, mais les ténèbres spirituelles qui pèsent sur Jésus sont beaucoup plus grandes. Mais c'est une parole aussi qui montre la compassion du Seigneur qui fait un avec nos difficultés. On n'a pas un Dieu qui dit « Allez, il faut que vous allez mieux, vous souffrez, vous avez de la douleur, vous passez par des épreuves, mais il faut que vous en sortiez, allez, dépêchez-vous. » Ce n'est pas une pression comme ça, le Seigneur. Le Seigneur nous veut compatir. Vous savez ce que ça veut dire, compatir? L'origine du mot compatir, souffrir avec la personne. La Bible nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Jésus sait parfaitement le chemin par lequel on peut passer, les difficultés, les douleurs du chemin, les épreuves qui sont là. Il a porté tous nos maux à la croix et il sait ce que nous pouvons ressentir dans notre cœur. Parfois même notre conjoint ne peut pas comprendre ce que nous vivons. Mais Jésus peut parfaitement comprendre. Voilà pourquoi c'est intéressant de se tourner vers lui et de comprendre que s'il a été abandonné au moment de ce moment-là de la croix, c'est parce que Dieu voulait nous accepter à nous. Dieu est en train de nous ouvrir les bras pour qu'on puisse se jeter dans ses bras et être serré contre son cœur. Vous savez, parfois les choses ne se déroulent pas comme on le voudrait. Mais Dieu, il sait pourquoi. Dieu, il est spécialiste pour changer le mal en bien. La Bible nous dit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien de tout le monde. Non, pour le bien de ceux qu'il aime. De ceux qu'il aime. De ceux que lui, il aime et de ceux qu'il aime à lui aussi. Et j'étais au congrès la semaine dernière. Et vraiment, on a eu des temps bénis. Et il y a quelque chose qui s'est passé lors de ce congrès. Deux jeunes pasteurs que je connais bien qui avaient réservé une chambre d'hôtel. Et quand ils arrivent à la réception, c'était le soir vers 21h, après avoir mangé. Et donc ils arrivent, ils vont voir le réceptionniste. Voilà, on a réservé au nom de tel. Et donc le monsieur cherche sur son ordinateur. Tenez, voici la clé, c'est la chambre 24, vous pouvez y aller. Ils y vont. Le problème, c'est quand ils ouvrent la porte, il y a quelqu'un dans la chambre. Ça arrive pas souvent, ça. Et donc la dame dit, mais si, j'ai réservé, ça fait plusieurs jours que je suis là. Donc ils retournent à la réception, et là... Le réceptionniste, quand il comprend qu'il y a un problème, il commence à changer totalement d'attitude. Il fait comme s'il les avait jamais vus. Il dit « Oui, bonjour monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et ils lui disent « Mais vous venez de nous donner la clé. »« Ah non, je ne vous trouve pas sur la liste, je ne sais pas. De toute façon, notre hôtel est complet, alors on ne peut rien pour vous. Débrouillez-vous. » Le problème de cette affaire, c'est que lors du congrès, il y a environ 650 personnes, pasteurs et épouses de pasteurs, qui viennent. Donc tous les hôtels de la région de Montluçon sont bien remplis. Et pour trouver à 21h30 du soir un hôtel, c'est une histoire compliquée. Mais donc il s'acharne, il s'évertue, il téléphone par-ci, par-là, et finalement il trouve un hôtel. Et donc ils arrivent à dormir, même si la nuit est courte du coup. Et par contre, le lendemain matin, il y a quelque chose qui se passe. C'est que la directrice du nouvel hôtel où ils sont allés, elle a entendu parler de la situation et elle discute avec eux. Et puis, ce moment-là, c'est comme si Dieu l'avait prévu, parce que De cette discussion, on va dire un petit peu banale, va sortir, jaillir une discussion sur la foi. Et cette dame est interpellée parce que c'est des pasteurs qui sont là et elle pose des questions et vraiment elle commence à rentrer dans les détails de sa vie en partageant avec le pasteur et le pasteur profite de ce moment-là pour rendre témoignage. Plus tard, il va appeler Booking, c'est Booking, je fais pas de pub, hein, mais il appelle Booking et Booking lui disent, mais on n'a jamais vu un problème comme ça. Pourtant, ils ont quelques réservations tous les jours, hein. Et Booking disent, mais ça s'est jamais arrivé, ça, on comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais le pasteur, lui, il m'a dit, mais moi je comprends maintenant ce qui s'est passé. J'étais embêté pour trouver mon hôtel, mais finalement j'ai pu rendre témoignage à la directrice de cet hôtel de la bonne nouvelle du Seigneur. Dieu est celui qui veut transformer nos situations difficiles, les choses que l'on comprend pas en bénédiction. Si Jésus, à un moment donné, a dit, Seigneur, pourquoi? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais nous comprenons aujourd'hui qu'il a été abandonné pour que nous soyons acceptés. Il a été aussi au comble de son humanité sur la croix, dans les douleurs, dans les souffrances, en disant, Seigneur, j'ai soif. Lui qui était pourtant et qui est toujours la source de la vie. Il y a quelqu'un à qui il a dit, donne-moi à boire. On pourrait dire, c'est la même chose que j'ai soif. C'est la Samaritaine. Mais finalement, c'est lui qui lui a donné à boire. Je vais te donner de l'eau vive. De l'eau qui va jaillir de ton cœur jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur est celui qui veut nous satisfaire. Mais le Seigneur sur la croix nous montre qu'il est humain, qu'il est bien un homme, et que en tant que tel, nous avons aussi besoin de faire cette prière. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Seigneur, j'ai soif de te connaître. Seigneur, j'ai soif de plus de toi dans ma vie. Seigneur, je veux que tu viennes abreuver mon cœur dans ces instants. Essayez de combler votre cœur avec toutes les choses de cette terre. Essayez de mettre dans votre cœur des milliers d'euros si vous en avez, des millions d'euros. Essayez de mettre toutes sortes de choses dans votre cœur. Ça ne satisfera jamais votre cœur. La seule chose qui peut combler un cœur, c'est la présence du Seigneur Jésus. Par la foi, j'ai soif. Jésus n'a pas accepté le vin mêlé de myrrhe, mais il a accepté le vinaigre. Il a accepté ce qui lui rappelait encore la souffrance, ce qui lui rappelait, ce qui lui donnait l'arrière-goût de tout ce qu'il était en train de vivre, pour que nous puissions être abreuvés des fleuves d'eau vive, de la grâce de Dieu et de la vie de Dieu. Et ce matin, je peux vous le dire, que si vous venez avec le Seigneur, avec cette parole, Seigneur, j'ai soif que tu viennes me guérir, j'ai soif que tu viennes intervenir dans ma situation, j'ai soif, Seigneur, parce que les hommes me disent que c'est pas possible, tout est bloqué, il n'y a pas d'issue, Seigneur, mais j'ai soif que tu interviennes. Ben, je peux vous dire que le Seigneur va faire un travail pour vous. Je finis rapidement. Sixième parole, tout est accompli. En grec, c'est un mot. Alors, retenez-le ou pas, ça c'est vous qui voyez, c'est le mot tétélestai. Un mot pour dire « tout est accompli ». Mais c'était un mot qui était très employé à l'époque. On a retrouvé toutes sortes de documents qui nous montrent des exemples de comment il était employé ce mot et toute la valeur, la profondeur du sens de ce que Jésus dit sur la croix. Tout est accompli, tout est fini, tout est payé. Par exemple, le serviteur. Dans un texte grec ancien, laïque, il est dit que on lit l'exemple d'un père qui envoie son fils en mission. Et le fils ne devait pas revenir avant d'avoir effectué le dernier acte de la mission. Quand il a fait le retour d'une mission réussie, alors il utilisait le mot à son père « tetelestai ». Ça y est, papa, j'ai rempli ma mission. Premier sens du mot « tetelestai ». Jésus nous dit « ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon père ». La mission de Jésus s'est accomplie au moment où il a dit ce mot à la croix. Tout est accompli. « Tetelestai ». Un deuxième sens est là. Le débiteur et le créancier, quand quelqu'un avait une dette et qui avait été payé, le créancier écrivait « tetelestai ». C'est comme s'il mettait le tampon « payé » sur vos factures. Vous avez déjà vu ça ? Tampon « payé » ? Mais là, c'était le mot « tetelestai » qui était inscrit sur le certificat de la dette, ce qui signifie qu'elle avait été intégralement payée. Il y a des archéologues en Égypte qui ont retrouvé le bureau d'un ancien créancier et ils ont trouvé une pile de factures avec le mot « tetelestai » inscrit partout. À la croix, Jésus dit « tetelestai », dit « tout est payé ». Les fautes que j'ai faites, les fautes que je vais faire même à la croix, elles trouvent elles sont graciées à la croix, elles sont effacées parce que Jésus a payé pour moi. Quand un citoyen était reconnu coupable d'un crime, il était jeté en prison. Un certificat de dette énumérant donc comme un casier judiciaire, énumérant ses crimes, était cloué sur la porte de sa prison. Et tous ceux qui passaient pouvaient voir ce qu'il avait fait cet homme, pourquoi il était là. Et ils voyaient aussi la pénalité qui était imposée. Et quand le juge pensait que le prisonnier avait purgé sa peine et qu'il était libéré, alors on enlevait l'acte. Et à la fin de l'acte, on marquait, devinez quoi ? Tetelestai. Tout est accompli. Est-ce que le péché n'est pas quelque chose qui nous rend esclaves, qui nous tient dans des prisons captifs ? Mais le Seigneur est juste celui qui veut mettre le tampon de son Saint-Esprit sur notre vie. Tout est accompli. Un dernier exemple, et il y en aurait d'autres. Quand le peintre avait mis les dernières touches au paysage qu'il était en train de faire, ou le sculpteur qui était en train de donner les derniers coups de burin au buste en marbre qu'il faisait, il se tenait debout en arrière, vous savez, comme les artistes peuvent le faire. Moi, je suis pas trop artiste, c'est pas trop mon truc. Mais il admire son chef-d'œuvre, il regarde sur tous les angles si ça va. Et quand il voit qu'il n'a plus rien à corriger, plus rien à améliorer, il dit « Tetelestai, tout est accompli ». Quand Dieu contemple ses enfants qui croient dans le sacrifice de Jésus, qui mettent leur confiance et qui laissent le sang de Jésus purifier leur âme, alors Dieu est en train de regarder et de dire « Tetelestai, j'ai accompli l'œuvre et je suis en train d'accomplir cette œuvre ». La Bible nous dit « Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite ou l'achèvera ». Est-ce que vous voulez que Dieu achève la bonne œuvre qu'il a commencée ? Peut-être que quelqu'un a besoin de comprendre que Dieu veut commencer une bonne œuvre dans sa vie ce matin. Alors, cette dernière parole de Jésus, elle est pour vous. Faites-la vôtre. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus, avec beaucoup de confiance, il sait que la mort n'est pas la fin. Il sait qu'il va y avoir la vie par la suite, mais il s'en remet à son Père. Est-ce que nous allons attendre la dernière minute de notre vie pour nous en remettre à Dieu? Ou est-ce que dès aujourd'hui, on peut pas dire, Seigneur, je te remets ma vie, je te remets mon cœur, je me place entre tes mains, je crois que tu veux me guider, me diriger, me conduire et m'amener dans cette vie nouvelle que tu as prévue pour moi. Une vie pleine de bonnes œuvres, car nous sommes son ouvrage ayant été créé pour de bonnes œuvres que Dieu a prévues d'avance. Il y a de bonnes œuvres, des projets de paix que Dieu veut pour nous. Vous pourrez fermer les yeux quelques instants.